Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur la radio SBS. Vous écoutez SBS French, nous allons passer une heure ensemble. Je m'appelle Marianne Murat, nous sommes le dimanche 15 février 2026 et on commence avec le personnage qui a marqué la semaine.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.
Notre personnage de la semaine fait sensation sur la scène internationale, le portoricain Bad Bunny. Né à Porto Rico en 1994, Benito Antonio Martinez Ocasio s'est imposé en 10 ans comme une icône mondiale de la musique latino. Fidèle à sa langue et à ses racines, il enchaîne les succès depuis 2020, mêlant reggaeton, trap et des rythmes des Caraïbes dans des albums multi-récompensés. Artiste engagé, il aborde dans ses chansons des sujets sociaux et politiques et soutient son île natale. Sa prestation spectaculaire et symbolique au Super Bowl cette semaine a confirmé son statut de superstar et de porte-voix de la culture portoricaine.
Notre personnage de la semaine fait beaucoup parler de lui sur la scène internationale. Il a enflammé le Super Bowl 2026 lors du traditionnel spectacle de la mi-temps, devenant le premier artiste à se produire dans une autre langue que l'anglais. C'est le portoricain Bad Bunny. Depuis 2020, il domine la scène musicale mondiale et figure parmi les artistes les plus écoutés, portrait d'une superstar planétaire et engagée. Puerto Rico, décrite comme la plus ancienne colonie du monde, se trouve au cœur des Caraïbes. L'île a été marquée par le colonialisme et les conflits, mais aussi par sa culture et sa musique. C'est ici que naît Benito Antonio Martinez Ocasio en 1994 à Vega Baja. Très tôt, il se passionne pour la musique, merengue, salsa, bachata, en passant par le reggaeton, un genre musical qui gagne de la popularité dans les années 90 à Puerto Rico. Il débute la production de ses propres beats qu'il commence à partager en ligne. Des morceaux notamment centrés sur le reggaeton et la trap. Son nom de scène, Bad Bunny, choisi après avoir publié une photo de lui enfant et vêtu d'un costume de lapin avec un air grincheux. En 2016, sa chanson Diles attire l'attention des producteurs qui repèrent son potentiel. C'est le début de sa carrière. Il enchaîne les singles à succès, en solo ou en collaboration, puis, en 2018, le titre modernisé « I Like It » avec Cardi B et le chanteur colombien J Balvin le révèle au grand public américain. La chanson atteint la première place du Billboard Hot 100. Il sort son premier album « Por Siempre » qui se classe numéro 1 des top latin albums du Billboard. L'album mélange plusieurs styles, de la pop-punk au hip-hop et le dembow. Cette diversité lui fait remporter un Latin Grammy du meilleur album urbain et le disque devient diamant en 2019. En 2020, il se produit à la mi-temps du Super Bowl avec Shakira, Jennifer Lopez et J Balvin. C'est enfin la première grande exposition mondiale. L'année sera prolifique pour l'artiste, il enchaîne avec l'album « Yo hago lo que me da la gana »« Je fais ce que je veux », une déclaration pour repousser ses limites et affirmer sa différence. Deux autres albums sortiront également la même année, dont notamment le célèbre « El último tour del mundo ». En 2022, c'est l'album « Un verano sin ti » qui sort. Très attendu, il devient le plus streamé en une semaine et fait remporter une fois de plus le Grammy du meilleur album de musique urbaine. Une playlist estivale qui nous a fait danser, combinant encore une fois plusieurs courants musicaux des Caraïbes, reggaeton, pop, indé et rythmique tropicale.
I'm still making music from here to the walls. I just really want that people feel like they are really here in the island, in the Caribbean. The best part of all my achievement is when people say, yo, but he's from Puerto Rico.
Depuis 2020, Bad Bunny s'impose comme l'artiste le plus écouté sur Spotify, décrochant ainsi son quatrième titre en 5 ans. Alors que de nombreux artistes choisissent de chanter en anglais pour toucher un public plus large, il reste fidèle à sa culture et à sa langue maternelle. En 2025, c'est son dernier album « Debí tirar más fotos »,« J'aurais dû prendre plus de photos » et il cartonne. Il y célèbre ses racines portoricaines tout en racontant son histoire. L'album explore la nostalgie, l'identité culturelle et la préservation de la mémoire. Chargé d'émotions, il mêle des styles traditionnels comme la plena, la salsa ou la bomba, trouvant un parfait équilibre entre tradition et modernité. Les billets de ses concerts partent comme des petits pains. Ce dimanche 1er février, il s'impose en remportant l'album de l'année et devient le premier artiste hispanophone à recevoir le plus prestigieux des Grammy. Mais Bad Bunny, c'est aussi un artiste très engagé. Dans ses titres, il aborde des sujets sérieux et complexes, comme les violences domestiques, les droits LGBTQ+, et se moque même des normes genrées en portant des jupes. Il dénonce également le statut colonial de son île, territoire des États-Unis, mais encore victime des inégalités. Plutôt que de se produire aux USA, Benito choisit de donner 30 concerts à Porto Rico, permettant d'injecter plus de 200 millions de dollars dans l'économie locale. Il a aussi créé la Good Bunny Foundation pour aider les enfants en difficulté et n'hésite pas à s'engager publiquement dans des manifestations ou à critiquer la politique. Mais cette semaine, c'est surtout sa prestation spectaculaire et symbolique au Super Bowl qui a fait sensation. Drapeau, pavas, danseurs, musiciens, le show célèbre à la fois la culture portoricaine et américaine dans son ensemble.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay!
Plus de 128 millions de téléspectateurs ont suivi sa performance, établissant un nouveau record d'audience. Star multi-récompensé, Bad Bunny n'est pas seulement un artiste à succès, c'est une véritable icône de Porto Rico. En mêlant habilement références culturelles et rythmes d'Amérique latine, il a en seulement 10 ans propulsé la musique portoricaine et la langue espagnole sur la scène mondiale. Entre succès commercial, engagement social et audace artistique, il se réinvente à chaque album. Avec lui, la musique devient un vecteur de culture, de fierté et de changement. Préparez-vous! Dans les semaines à venir, Bad Bunny sera partout et notamment à l'Olympic Park de Sydney.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Les femmes de ta vie en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Je suis toute la femme, tu vois, toute la femme de ta vie.
C'est Julien Doré qui reprend les L5 avec ce titre « Toutes les femmes de ta vie ». Messieurs, dames, restez sur SBS French, on marque une très courte pause avec cette publicité. On se retrouve dans un instant avec le deuxième épisode de notre podcast « L'histoire cachée de l'Australie », consacré cette fois à Robert Menzies, avec un focus sur la Deuxième Guerre mondiale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie d'un long épisode consacré au Premier ministre qui a le plus longtemps exercé le pouvoir dans l'histoire de l'Australie. Il s'agit de Robert Menzies. On va voir comment celui-ci se retrouve à la tête du gouvernement au moment où démarre la Seconde Guerre mondiale et dans un contexte difficile sur le plan donc international, mais aussi sur le plan domestique. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Non, puis vous l'avez dit, effectivement, à cette époque-là, il n'est pas le seul à se laisser éblouir, on va dire, par Adolf Hitler et les nazis, loin de là. Sauf que, dans ces premiers temps qui précèdent donc la Seconde Guerre mondiale, il va un petit peu se faire flouer une deuxième fois. En tout cas, il y a une autre menace beaucoup plus sérieuse pour l'Australie qui ne voit pas du tout venir. C'est le Japon. Et il y a un événement assez important dans l'histoire australienne qui va opposer d'une part des syndicats au gouvernement. Et Robert Menzies donc, en fait partie à cette époque. Et il va ressortir assez affaibli de cette escarmouche entre syndicats et gouvernement. C'est quelque chose que, d'après ce que j'ai pu voir, on appelle en Australie la controverse de Dalfram, la dispute de Dalfram. C'est quoi cette histoire de Dalfram ?
Alors avant de revenir sur Dalfram, je vais reprendre les choses par le début par rapport au Japon. C'est un point essentiel ce que vous avez dit parce que contrairement aux politiciens de droite plus âgés, Menzies est beaucoup moins arc-buté sur l'idée de race. La génération d'avant, effectivement, a énormément peur du Japon. D'ailleurs, une partie de pourquoi l'Australie se fédère, c'est pour l'Australie blanche, pour la défense, et parce que justement l'empire du Japon commence déjà à prendre de l'essor. Hein. En 1902, il y a déjà un accord entre la Grande-Bretagne et le Japon, et puis le Japon est solidifié, sort solidifié de la Première Guerre mondiale, et ça inquiète beaucoup les Australiens. Menzies, lui, il est dans une droite qui, à l'époque, alors aujourd'hui, on regarde ça avec nos yeux de 2025, on dit « oh là là, c'est très conservateur », mais à l'époque, c'est une droite libérale et un peu d'avant-garde et surtout intéressée par l'économie et être libre chez soi et, vous voyez, ces valeurs un peu, comment dirais-je, conservatrices, mais la liberté est importante à l'intérieur de ça. Il n'est pas tout à fait obsédé comme les autres par la présence ou la croissance du Japon, parce qu'on le sait, dans les années 30, le Japon envahit la Mandchourie, colonise et est déjà en train de se construire un empire. Et ça, c'est vrai qu'il ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il le sait, hein, il reçoit, il est informé en tant que membre du gouvernement, il n'est pas idiot, mais il vit dans cette idée que de toute façon, la Grande-Bretagne, c'est la première marine du monde, que c'est un grand empire et que tout va bien se passer. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et ça se voit, hein, d'ailleurs, quand il est Premier ministre en guerre, on va le rappeler, la géopolitique et la clairvoyance des situations de force et de faiblesse, c'est vraiment pas son truc. Et du coup, l'Australie est un peu surexposée. Il ne comprend pas très bien ce qui se passe, il est obnubilé par Londres et il ne voit pas les changements dans l'Asie Pacifique. On en reparlera le rôle des États-Unis un peu plus tard. Quant au Dalfram, il s'agit d'un bateau. C'est un bateau qui en fait était chargé de, on appelle ça de la fonte, on faisait des espèces de pieux, mais enfin des bouts de fonte très très lourds qui sont chargés dans des grands bateaux pour aller après être raffinés, faire de l'acier. Et ce bateau-là était en partance pour le Japon. Et en 38, quand on sait ce que le Japon a fait en Chine et comment le Japon a des ambitions impériales et comment le Japon obtient une marine assez impressionnante avec quoi on construit des grands bateaux qui sont armed. Les cuirassés, il faut de la fonte lourde. Et donc, les ouvriers australiens de Port Kembla, dans Nouvelle-Galles du Sud, quand ils apprennent la destination du bateau, c'est un peu comme si on demandait à des Alsaciens ou des Lorrains en 38 d'envoyer des canons en Allemagne. Ça passe pas. Encore que on l'a fait avec eux, mais enfin, bref, tout ça pour dire que les ouvriers se mettent en grève. Et le mouvement syndicaliste à l'époque est beaucoup plus structuré et beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça paralyse un peu les ports pendant un petit moment parce que les ouvriers décident de ne plus travailler et jusqu'à ce que le gouvernement change sa politique vis-à-vis de l'export de matériel qui pourrait être utilisé à des fins militaires par le Japon. Pour BHP, la grande entreprise de mine, en profite pour licencier 4000 mineurs en prétextant, parce que là, il s'agissait vraiment d'un prétexte qu'ils n'arrivaient pas à écouler leur stock. Et donc, c'est une crise un peu sociale, politique. Et Menvis veut passer en force, veut que les ouvriers chargent le bateau. Et en anglais, on appelle ça Pig Iron. Et du coup, il a gagné le surnom de Pig Iron Bob. Bob, c'est le diminutif de Robert, qui est son prénom. Mais c'est un jeu de mots entre la fonte et
Et
une tête de cochon. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un surnom qu'il a gardé toute sa carrière. Ça l'a pas beaucoup servi, parce que ça lui a donné ce côté un peu anti-ouvrier, anti-homme du peuple. Et surtout, voilà, qu'est-ce qu'on fait à aller fournir du métal? De la fonte aux Japonais. Mais pourtant, il a continué. Et au bout d'un moment, effectivement, les ouvriers ont dû reprendre le travail, charger le bateau, mais il avait été conclu avec le gouvernement que voilà, ce type d'erreur ne serait pas reproduite. Mais c'est un conflit social qui lui pète à la figure, entre guillemets, parce qu'il l'a pas vraiment venir, il n'a pas très bien géré, il n'est pas très à l'aise. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec la grande élite britannique ou avec ses ministres. C'est un bon manager en termes de il connaît les institutions, il en connaît ses rouages, il travaille bien au bureau, mais il y a des choses qu'il n'arrive pas vraiment à saisir.
Alors, donc, sa popularité après cet épisode est quand même écornée, mais il n'est pas désavoué par ses collègues. Et finalement, il va devenir Premier ministre l'année suivante, le 7 avril, suite à la mort de Joseph Lyons, qui lui meurt un petit peu subitement. Et c'est donc Robert Menzies qui fait officiellement entrer l'Australie dans la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, on imagine bien que c'est une période très compliquée sur le plan international, évidemment, mais aussi parce qu'en fait, à ce moment-là, son gouvernement ne tient plus qu'à un fil et que lui, personnellement, perd en popularité. C'est aussi quelque chose qu'on avait abordé dans l'épisode concernant John Curtin. Et puis, il se rend compte, enfin, que le Japon, c'est une menace quand même très sérieuse à cause de ses visées impérialistes sur la région. Et que le Japon pourrait très bien s'en prendre à Singapour, qui est le siège de l'armée britannique dans le Pacifique, et qui, en gros, est en charge de la sécurité de l'Australie. Et ça, il va essayer de convaincre Londres qu'il faut un petit peu prendre les Japonais au sérieux, en gros.
Oui, mais trop tard. Donc effectivement, le premier ministre d'avant, Joseph Lyons, Lyons, décède, et du coup, il faut le remplacer, et qui le remplace? Eh bien, Menzies, le 7 avril 1939. À l'époque, c'est un gouvernement qui est un peu en minorité, ils n'ont pas assez de députés au Parlement, donc c'est un gouvernement qui est déjà en fin de règne, ça fait plusieurs mandats que la droite est au pouvoir, et donc en fait, il y arrive parce que il est vu comme un homme politique plutôt droit, plutôt stable, et qui est plutôt bon avec les appareils de parti à concilier. C'est un extrémiste en fait, c'est quelqu'un qui va écouter et faire travailler les gens ensemble. Effectivement, pour le Japon, il s'inquiète parce que on voit bien que la flotte impériale japonaise, les avions, enfin, c'est extrêmement, extrêmement important. Et ça, les Britanniques le savent aussi, mais ce qui fait peur aux Britanniques, c'est évidemment ce qui est beaucoup près de chez eux, c'est-à-dire Hitler, hein, avril 39, Munich, déjà, l'année précédente, il y a la crise de Danzig. D'ailleurs, à ce propos, Menzies est un peu un peu victime de la propagande allemande, que le traité de Versailles était trop dur. Non, ça, c'est un mythe qui a été propagé. Mais si vous regardez les traités qui ont été signés entre les États sur les 100, 150 années avant, ou même 200, vous partez un peu plus loin, Versailles, c'est plutôt soft hein, comme traité comparé à d'autres. Donc, il y a cette idée que finalement, bon, les demandes d'Hitler, donc on est avant la guerre, peuvent être, si ce n'est légitimes, peuvent être comprises. Et lui, finalement, c'est pas tellement ce qui se passe en Allemagne qui le préoccupe que ce qui se passe au Japon. Et là, on voit bien que la force japonaise vis-à-vis de la force britannique commence à inquiéter les Australiens, parce que les Australiens ont parié toute la sécurité, leur sécurité, sur la doctrine de Singapour. C'est-à-dire que la grande base britannique de Singapour protégerait, en cas de guerre, l'Australie. Et alors, enfin, si on peut faire la comparaison avec aujourd'hui, c'est que les Australiens ont toujours vu leur défense comme assurée par quelqu'un d'autre, que ce soit Londres ou maintenant Washington. Et c'est une erreur. Il n'y a pas de cas historique où un pays est allé généralement se battre, généreusement se battre pour les autres sans que ses intérêts nationaux soient en jeu. Les États-Unis ne rentrent pas dans la Première Guerre mondiale avant 17. Ils ne rentrent pas dans la Deuxième Guerre mondiale avant Pearl Harbor. Bon alors, l'Europe, elle est déjà à feu et à sang. Et les Britanniques, c'est vrai, ils vont se défendre eux-mêmes. Battle for Britain, j'ai oublié en français, mais l'année 40, qui est très difficile pour les Britanniques, il faut qu'ils protègent leur île avant de protéger l'Empire. Et donc, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que l'Australie, elle n'a pas d'industrie de la défense. Alors, elle va s'en construire une rapidement, mais enfin, c'est pas du tout comparable. Elle est en retard. Elle est en retard comparée au Canada, elle est en retard comparée à l'Afrique du Sud, et elle est donc sous-équipée. Et le deal donne de l'offre, de l'or, des graines, enfin du blé et de la laine de mouton contre de la protection. Bah, ça tient un moment, mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir se défendre soi-même. Et donc, Menzies arrive dans une situation où non seulement il a un gouvernement dont la majorité à l'Assemblée n'est pas assurée, où il ne voit pas tant que ça la guerre venir. Et d'ailleurs, à cet égard, pour nos auditeurs qui comprennent l'anglais, je leur recommande d'écouter le discours qu'il a donné, It is my melancholy duty, quand il déclare la guerre au nom de l'Australie. En fait, il dit, bon, ben, la Grande-Bretagne est en guerre, donc nous le sommes aussi. Or, à cette époque-là, c'est pas aussi automatique que ça. L'Australie aurait pu penser différemment. Mais c'est un switch qui est intéressant, non seulement pour le ton et pour l'accent, on voit qu'il est vraiment très britannique. Comparé à d'autres premiers ministres australiens qui avaient un accent beaucoup plus australien, mais surtout, il est mal préparé. C'est pas un premier ministre de guerre. Il passe beaucoup de temps en Angleterre avec Winston Churchill et le War Cabinet, le cabinet de guerre britannique. Si bien qu'en fait, il y a un peu aux abonnés absents en Australie, ça passe pas très bien, et il perd sa majorité, et puis en réalité, il se retrouve dans l'opposition parce que la gauche, avec l'épisode qu'on a fait sur Curtin, l'épisode, reprend la main. Et finalement, se débrouille très bien dans une situation extrêmement compliquée où les Japonais sont à la porte de l'Australie.
On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On quitte donc Robert Menzies dans un moment difficile. Il vient d'être évincé du pouvoir, mais vous verrez dans le prochain épisode comment il a réussi à reconquérir l'opinion et le pouvoir qu'il va ensuite conserver pendant très longtemps. La suite de cette histoire, eh bien, ce sera d'ici quelques jours sur notre site SBS French. À très bientôt.
Les apparences sont quelquefois contre moi. Je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer.
Le mal aimé, c'est la version originale chantée par Claude François. Messieurs, dames, on vous propose un autre podcast à présent. Ça s'appelle Les Grandes Dames, un podcast SBS French et Ambassade de France en Australie. Dans ce quatrième épisode, notre invitée est Caroline Guiela Nguyen, metteuse en scène. C'est donc un podcast Les Grandes Dames consacré au théâtre. Elles marquent la vie du quotidien. Chacune dans leur domaine, elles se démarquent par leur talent, leur combat, leur histoire. Elles, ce sont ces femmes, ces dames, ces grandes dames. D'où leur vient l'inspiration et la force? Qui sont leurs icônes, leurs grandes dames à elles? On leur a posé la question. Plongez dans leur vie inspirée et inspirante, mesdames et messieurs, bienvenue dans le quatrième épisode des Grandes Dames. Il y a des voix que l'on n'entend pas, des histoires que l'on tait, des corps que l'on cache. Et puis, il y a celles et ceux qui les subliment. Celles et ceux qui éclairent les personnes de l'ombre, les destins ignorés. Caroline Guiela Nguyen en fait partie. Elle est autrice, metteuse en scène et réalisatrice. Directrice du Théâtre National de Strasbourg. En France, ils ne sont que 6 à diriger un théâtre national. 5 hommes, une femme, elle. Une situation passagère, dit-elle, convaincue que d'autres femmes seront bientôt nommées. Son théâtre est traversé par le réel. C'est pourtant de la fiction. Elle s'entoure des experts du quotidien, comme elle les appelle, celles et ceux que l'on qualifie de vulnérables, là où elles révèlent leur puissance. Elle capte leur force et en fait une œuvre. Souvent, elle les fait monter sur scène, ils ont une histoire à raconter. Caroline leur donne la voix avec un E, avec un X. Elle ne cherche pas à déranger, mais à montrer. Il y a tant de chaos dans le secret. Caroline Guiela Nguyen a grandi en Provence, loin du théâtre, loin aussi de ses racines et de son héritage familial. Fille d'une mère réfugiée vietnamienne et d'un père juif algérien, elle se construit sans récit d'exil. Puis, en découvrant le théâtre et la littérature, elle réalise que là non plus, ces récits n'existent pas. Pas d'histoire de fracture, pas d'histoire de déplacement. Alors, Caroline décide de créer ses propres récits, d'y inscrire son héritage familial et culturel, ses questions, ses silences et aussi ses colères. Elle traverse le monde. Elle va à la rencontre des gens. Elle écoute, elle recueille des paroles, puis elle écrit. Elle écrit sur le chaos, sur les violences du passé, sur la mémoire de la colonisation. Elle raconte les histoires transmises et celles qui se sont perdues. Dans Saigon, elle raconte le Vietnam, la mémoire, les liens familiaux. Lorsque, fort de son succès, la pièce s'exporte à l'international, le public australien découvre Caroline. C'était en 2020. Les retrouvailles se font en 2026 avec Lacrima, sa dernière création jouée à Sydney et à Perth, avec le soutien de l'ambassade de France en Australie. Des retrouvailles triomphales. Dans Lacrima, Caroline raconte les travailleurs de l'ombre, les petites mains, celles et ceux sans qui rien n'existerait. La pièce nous plonge dans l'univers de la haute couture autour de la création d'une robe de mariée royale. Mais très vite, les projecteurs quittent le glamour pour se poser ailleurs. Sur les couturières à Paris, les dentelières à Alençon, les brodeurs à Mumbai. Celles et ceux dont le travail rend le rêve possible et qui reste pourtant invisible. « bientôt viendra Mélodrame, une nouvelle œuvre qui revient, là encore, sur les racines de Caroline, l'histoire de sa mère et sur la nécessité, aujourd'hui encore, de raconter autrement. Sa maman, Simone, sa grande dame à elle, qui l'a guidée jusqu'à sa mort l'année dernière. Parmi ces grandes dames, il y a aussi Annie Ernaux, prix Nobel de littérature pour son écriture du réel et des vies ordinaires, et Marguerite Duras pour son histoire intime et politique avec le Vietnam. Caroline Guilla Nguyen, c'est une grande dame du théâtre. C'est aussi une conteuse d'espoir. L'espoir de rendre leur force et leur puissance à celles et ceux à qui on les a confisquées. De rendre la voix à celles et ceux à qui elle a été arrachée. Caroline, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été nommée directrice du Théâtre National de Strasbourg. Il faut savoir que des théâtres nationaux en France, il n'y en a que 6. Et vous êtes la seule femme.
Effectivement, oui.
Ça vous fait quoi ?
En fait, j'ai toujours vécu le fait d'être la seule femme directrice comme étant passager. Pour dire la vérité, j'essaie après quand même un peu de l'oublier dans l'exercice même de ma fonction et des responsabilités que j'ai, j'essaye en fait finalement de faire avec qui je suis, ce que je suis, sans forcément tout le temps me poser la question de si je suis une femme ou pas, ou comment je suis regardée aussi en tant que femme. Voilà, j'essaye de l'oublier pour avancer et faire les choses, quoi.
Caroline, vous avez un style tout à fait particulier et c'est ce dont on va parler pendant la prochaine heure. Vous mettez en scène des histoires très intimes, des histoires qui franchissent les frontières. Vous vous intéressez aux vies oubliées, à celles laissées dans l'ombre. D'où vous vient cette conscience sociale ?
Je dirais pas moi que je travaille des récits intimes, je dirais que je travaille la vie des gens dans le mouvement de l'histoire et de la géographie, on va dire. Maintenant, cette idée, effectivement, que je mets en scène des personnages que l'on voit peu, dont les récits sont peu racontés, c'est quelque chose qui me vient de loin. C'est même pas quelque chose que je fais d'abord avec un élan politique, c'est d'abord un élan d'autrice. J'ai souvent eu à répondre à cette question, et je crois que l'une des réponses que j'ai pu amener, qui me paraît la plus juste, c'est que dans mon contexte familial, mon père et ma mère ont eu des vies extrêmement différentes de la mienne. Ma mère a vécu un exil parce qu'elle était vietnamienne et elle a vécu la guerre puis l'exil. Mon père aussi a vécu l'exil. Il était juif algérien. Il a aussi vécu la guerre puisqu'il était très âgé. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je suis née dans un tout petit village du sud de la France et j'ai été finalement très épargnée. Et donc, je me rends compte que j'ai eu besoin très tôt de me mettre devant les yeux ce que je n'avais pas vu. Et évidemment, c'est passé par exemple, l'une des premières créations que j'ai faites et qui a fait connaître mon travail à un niveau international, qui était Saïgon. Et c'était l'histoire, finalement, cette histoire que je n'avais pas vue, qui était donc l'exil de ma mère. Et de le mettre en scène et de le voir enfin. Et je pense qu'en fait, ce mouvement de faire sortir de l'ombre ce que je ne peux pas voir, c'est quelque chose qui me vient de là, en fait.
C'est une façon, au final, de partager une émotion très loin, vous le disiez tout à l'heure, de toute considération politique.
Ça devient politique, ça l'est politique. Ça l'est parce qu'en fait, on n'invisibilise jamais des gens et des histoires pour rien. Ce qui est caché pour des raisons qui sont politiques, qui sont des choix conscients, collectifs. Et donc, c'est politique. Ce que je dis, c'est que ce qui me pousse à le mettre en scène, ce qui me pousse à écrire ces personnages, donc par exemple, comme dans Lacrima, les brodeurs indiens ou ces dentelières, en fait, je les mets en scène, je les écris, mais au début, quand je commence l'écriture, ça n'est pas politique dans le sens où je me dis pas quel est mon programme politique dans mon écriture. Je l'ai fait exister dans mon écriture parce que, bah, comme le dit Annie Ernaux, tant que ça n'est pas écrit, ça n'est pas réel. Et je crois que c'est un peu ce mouvement-là pour moi.
Les personnes que vous mettez dans vos mises en scène, dans vos pièces de théâtre, c'est des personnes qui vous ont été inspirées par la vie réelle. Vous le disiez, les dentelières, les gens qui travaillent dans les ateliers. Et là, c'est juste pour Lacryma, vous le faites dans chacune de vos pièces. Tous vos acteurs ne sont pas forcément des acteurs professionnels. Vous jouez parfois avec des personnes amateurs. Et on l'a dit, vous racontez ce qui normalement est caché. Vous racontez une face du monde qu'on a tendance à vouloir ne pas voir. Est-ce qu'il y a quand même de la fiction dans votre travail ou est-ce que vous allez toujours sur le terrain rencontrer ces gens, essayer de travailler au plus près de la réalité?
Tout est de la fiction. J'adore cette phrase de Borges qui dit « Je n'invente pas de la fiction, j'invente des faits ». Je ne fais pas théâtre documentaire. Par exemple, pour les dentelières, c'est un bon exemple. J'ai effectivement passé énormément de temps à comprendre la réalité de l'artisanat de la dentellerie. Il y a des choses qui sont effectivement très factuelles, très réelles, qui sont dites comme il faut une journée entière pour faire un centimètre carré de dentelle, comme les dentelières avaient des problèmes de santé, voilà, toutes ces choses-là. Pour autant, en fait, ce sont des éléments qui viennent du réel, mais après, c'est toujours un mouvement de fiction qui me fait écrire. C'est-à-dire que les personnages qui sont sur le plateau ne sont pas... n'existe pas. Ça m'étonne toujours quand on voit mes spectacles qu'il y ait ce doute sur est-ce que c'est vrai ou pas. Par exemple, on a souvent dit de mes spectacles que c'était du théâtre documentaire et à d'autres moments, on dit de mes spectacles qu'ils sont extrêmement lyriques et cinématographiques. Alors que c'est deux choses qui, a priori, sont quand même très distinctes. Et c'est vrai que ça m'étonne tout le temps, finalement, le fait de ne pas réussir à le mettre dans une case. Mais moi, en tout cas, très clairement, ce qui me pousse à écrire, c'est effectivement, je suis très lestée par le réel. Je vais passer énormément de temps à regarder les gens, à me charger du poids, finalement, du réel. Mais après, ça sera toujours au service d'une fiction.
Et pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est quoi le but ultime pour vous?
C'est comme si je me devais d'être conséquente avec les histoires que j'allais créer. Par exemple, j'ai travaillé longtemps en prison avec des détenus. Et je me souviens d'une anecdote qui va pouvoir expliquer peut-être un peu ce que je veux raconter là. C'est qu'un jour, on a décidé d'improviser et on s'est dit, tiens, on va improviser le jour où un surveillant de prison va annoncer à un détenu longue durée qu'il est libéré. Et là, le comédien professionnel vient et joue avec le gardien de prison et va voir le détenu et lui dit « Allez, dépêche-toi, lève-toi, c'est bon, t'es libéré, fais tes affaires, va-t'en, vite, tout ça. » Et en fait, un des détenus, qui jouait aussi un comédien, nous a dit « Non, non, mais on arrête. » Et dit « Mais en fait, tu n'as pas compris. » Il dit « Attendez, reprenez conscience de ce dont il s'agit. Il s'agit d'un surveillant qui m'a vu depuis 10, 15, 20 ans en prison et il me dit aujourd'hui que je suis libérable. » Voilà. Et en fait, on ne sait toujours pas comment on doit la jouer, la scène. Mais par contre, on est chargé de ce que la situation implique de conséquences. Voilà.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Justement, je voulais rebondir quand vous dites les histoires collectives. Vous racontez vos histoires par le point de vue des acteurs. C'est très important pour vous. C'est l'essence même de votre travail d'écriture, de trouver ce qu'ils ont en commun. Mais est-ce qu'il y a toujours quelque chose en commun? Est-ce que parfois, il ne faut pas accepter cette différence fondamentale entre les êtres où on peut se rendre compte qu'il n'y a rien en commun?
C'est une très belle question qui est extrêmement d'actualité, je pense. Et je vais y répondre en faisant un détour. La notion d'universalisme m'a toujours posé question. Elle m'a posé question parce que pendant des années au théâtre, on nous a raconté que, en tout cas en France, qu'il y avait des auteurs, d'ailleurs des auteurs, hein, pas des autrices, soyons clairs, des auteurs qui étaient universels. Donc des auteurs comme Molière, comme Racine, comme Shakespeare, qui étaient universels et que finalement se logeaient à l'intérieur de leur écriture l'ensemble des douleurs du monde, quoi. Et j'aime Racine passionnément, même d'ailleurs, j'aime Shakespeare, je suis moins passionnée par Molière, mais soit, c'est pas un jugement de valeur sur ces auteurs-là, mais pour autant, je pense qu'en fait, ces auteurs ne contenaient pas l'histoire de ma mère, par exemple. Exilée, la colonisation, la décolonisation, le racisme systémique, tout ça, ils ne l'avaient pas, ils n'étaient pas dans cette époque-là. Et donc la notion d'universel, finalement, a mangé, a grignoté l'espace de ceux qui pouvaient raconter d'autres histoires. Et surtout, elle a fait croire que finalement, ben, tout le monde pouvait être tout le monde. Et ça, je ne le crois pas. Je pense qu'en fait, nous avons des différences fondamentales. Et que d'ailleurs, tous mes spectacles, je m'en suis rendu compte, commencent par se situer. On dit toujours où on est. Par exemple, Saïgon, on dit l'adresse. On dit nous sommes au 28 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Ou alors là, Lacrima, nous sommes au 28 rue Saint-Honoré dans le 3e arrondissement de Paris. On situe les personnages. On ne les met pas dans un endroit universel où tout le monde serait. Au contraire, ils sont précisément là où ne sont pas les spectateurs. On leur dit vous, vous êtes là et eux, ils sont là-bas. Quand j'ai dit ça, je dis qu'en fait, il y a de la distance entre les gens. Et que cette distance, il ne faut pas la réduire. Enfin, en tout cas, il faut la regarder comme telle. Je dis qu'il y a des différences fondamentales immenses entre les gens. Et ça, il ne faut pas ne pas la regarder. Pour autant, c'est vrai que j'ai intérieurement l'espoir de cet en commun. Cet en commun qui fait qu'on a une Marion Nicolas, première d'atelier, qui finalement traverse des choses comme ses dentelières, qui finalement va travailler des choses comme ses brodeurs en Inde. Et je ne mets pas les violences sur le même échelle, mais pour autant, quelque chose les relie. Là, c'est le savoir-faire. Et c'est vrai que cette chose-là, qui va être le savoir-faire, me passionne. Et c'est ça que j'essaye de trouver, effectivement, dans mes spectacles. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qu'il y a en commun ? Voilà.
Donc là, vous liez les gens par leur savoir-faire. Parfois, vous liez les gens aussi... Par un fil géographique, vous le disiez tout à l'heure, Paris, Alençon, Mumbai, et ça encore c'est pour une seule pièce de théâtre. Vous liez aussi les gens entre eux à travers les générations. Vous avez évoqué tout à l'heure le poids de l'héritage. Est-ce que vous pensez qu'on peut totalement s'émanciper ou non de l'héritage familial, de l'héritage historique de chacun ?
Ça dépend. Tant que dans nos livres d'histoire, tant que en fait on n'aura pas, nous par exemple ici en France, penser, poser à plat, reconnu des violences historiques, rien ne passera. Rien ne passera. Et je dirais même plus, chaque violence historique détruit même la notion du temps. Elle détruit la notion du temps parce que le passé se réinvite toujours, tout le temps, dans la vie de ceux pour qui, en fait, cette violence a été commise. On crée du chaos. Donc finalement, une génération, c'est dire cette génération-là a vécu ça, c'est du passé, la génération maintenant vit ça, c'est du présent. S'il n'y a pas eu un mouvement politique, social, collectif, qui fait qu'en fait on reconnaisse les violences qui ont existé dans notre passé collectif, en fait, la génération finalement qui vient après, le passé n'est pas passé, il sera encore là.
Cette violence historique, ce chaos, cette histoire coloniale, tout ce qu'on a abordé déjà un petit peu, mais juste superficiellement, je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Ça tient une énorme place dans votre narration. C'est un sujet personnel, vous l'avez évoqué un petit peu. Ce qui nous amène à parler de votre grande dame à vous, une de vos grandes dames, puisqu'on va en évoquer plusieurs. Mais on peut commencer par votre maman, vous l'avez dit, l'exil dans les années 60 du Vietnam. Toute votre carrière, vous pensez que vous lui devez ?
Bah, déjà, je lui dois ma vie, on va dire, ce qui est déjà finalement bien plus que ma carrière. Mm-hmm. C'est marrant parce que finalement, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a transmis et parce qu'elle ne m'a pas du tout transmis.
Le poids des secrets ?
C'est pas tellement les secrets, je pense que ma mère les a jamais vécus comme des secrets, mais... comme ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où on n'a pas en France, par exemple, une reconnaissance pure et simple des violences qui ont été commises contre les rapatriés d'Indochine, et que finalement on ne dit pas à ces communautés-là que ce qu'ils ont vécu c'est un événement de l'histoire française, eh ben, quand on ne reconnaît pas un événement, en fait les personnes qui l'ont vécu peuvent même eux à un moment penser qu'il s'agit d'un non-événement et donc ne pas le transmettre puisque c'est un non-événement. Donc c'est pas finalement ma mère aurait vécu quelque chose et elle l'aurait gardé comme un secret et qu'elle aurait pas voulu me transmettre pour pas me faire du mal. C'est qu'en fait finalement elle a continué de penser que ce qui est arrivé n'était pas un événement. Donc elle ne me l'a pas raconté. Mais pour autant, la violence circule, l'humiliation circule et qu'est-ce qui fait que moi aujourd'hui, 50 ans, 70 ans après la défaite de la France et de la décolonisation au Vietnam, de quoi j'hérite, de quoi je suis fait, voilà, qu'est-ce qui est encore là ? C'est finalement beaucoup, ce qu'elle ne m'a pas transmis, fait partie énormément finalement de mon écriture, de ce que je cherche, de ce qui m'anime, de ce qui me met en mouvement tout le temps, quoi. Après, elle m'a aussi transmis des choses, elle m'a dit des choses, elle a été une femme pour moi qui a été un modèle dans le sens où ça a été une femme qui a vécu des choses qui ont été très 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 violentes et qu'elle a eu cette force et cette dignité dont je parlais tout à l'heure qui fait qu'elle m'inspire peut-être aussi chacun de mes personnages, quoi.
Vous avez grandi dans un univers qui n'était absolument pas artistique. Est-ce que aujourd'hui, grâce à vos œuvres, vous avez l'impression de vous rapprocher de votre histoire métissée ?
Oui, oui, complètement. J'ai même tout fait. En fait, comment dire ? J'ai dû tordre le théâtre pour qu'il se rapproche finalement de ma vie. Quand j'ai commencé à faire du théâtre, tout m'éloignait de ma vie. Quand j'ai commencé à rentrer dans mon école de théâtre, on parlait de tout sauf de ce qui était le noyau de ma vie. On avait même chassé des plateaux les accents, on avait des langues qu'on n'entendait jamais, on avait des corps qu'on ne voyait jamais. Tout ce qui constituait mon enfance, ma vie, mes parents, ce que j'aime, tout, la nourriture, les couleurs, tout, tout était à l'écart des plateaux que je côtoyais. Et il y a eu un moment où j'ai dû même me fâcher finalement avec le théâtre et le tordre pour finalement récupérer là d'où je venais en fait et me réconcilier quelque part, en tout cas réconcilier ces deux espaces, l'espace de mon enfance et l'espace du théâtre, quoi.
Votre maman est décédée l'année dernière, elle a eu le temps de voir Saïgon, elle en pensait quoi ?
Ma mère a énormément aimé Saïgon, elle est venue plusieurs fois le voir, elle a amené ses amis, sa famille, tout ça. Mais c'est drôle parce que vous voyez, c'est pas le fait qu'elle ait aimé Saïgon qui m'a le plus marqué. C'est le fait que pour la première fois de sa vie, je pense que le théâtre, c'était chez elle. Et que finalement, qu'elle ait aimé ou qu'elle ait pas aimé, en fait, elle avait surtout la liberté et la possibilité tout d'un coup d'être chez elle ou d'être dans un lieu dans lequel, en fait, ce qui était fait lui était adressé. Et ça, c'était la chose la plus importante pour moi. Et c'est ce que j'essaye aussi, d'ailleurs, de faire maintenant, pas que pour ma mère, mais pour d'autres.
À votre tour, vous avez eu une fille. Vous êtes maman d'une jeune fille. Quel est l'héritage que vous voulez à lui transmettre ?
Je sais pas. Je pense pas en termes, pour l'instant, d'héritage. Ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de lui livrer une histoire un peu plus éclairée que celle que j'ai eue. Là, mon prochain grand projet que je vais faire pour 2028 s'appelle Mélodrame. Ça va revenir sur la question du Vietnam et de la France. Enfin voilà, j'ai fait Saïgon du vivant de ma mère. Ma mère est morte et là, je vais faire Mélodrame. Et je pense que je vais aborder aussi les questions avec finalement un niveau de colère peut-être plus élevé, peut-être que la colère que justement du vivant de ma mère, je ne pouvais pas me permettre. Et je pense d'ailleurs que cette colère est assez saine. Elle n'est pas là du tout pour détruire. Elle est là pour vraiment remuer et essayer de clarifier l'histoire avec un grand H. Et je pense que c'est surtout ça que j'ai envie de livrer à ma fille, c'est-à-dire une histoire plus claire et plus débarrassée de ce qui m'encombre.
Vous parlez de colère saine. Vous pensez que Mélodrame, ce sera la première pièce dans laquelle vous la laissez vraiment éclater, cette colère saine, ou vous pensez que ça a habité toutes vos œuvres quand même jusqu'ici ?
Non, c'est une très bonne question et je peux y répondre de façon extrêmement claire et nette. Ça n'a jamais existé dans toutes mes œuvres avant. Jamais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Si vous voulez entendre les grandes dames en intégralité, rendez-vous sur notre site internet sbs.com.au/french. C'était un extrait de l'épisode. Il est disponible en intégralité sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, messieurs, dames, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche après-midi. À bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.